petit C, la rédaction des évangiles. Alors, comme je vous disais, au bout d'un certain temps, on a eu ce phénomène un petit peu pour essayer d'enrayer les premières hérésies avec des chrétiens qui se parent du nom d'apôtres pour contrer les gnostiques. Et puis, comme les vrais apôtres vont commencer à disparaître, eh bien, on éprouve le besoin de fixer par écrit les témoignages donc des disciples oculaires de Jésus. Donc, ça va être parce que l'enseignement était oral, les apôtres se déplaçaient, ils avaient, pense-t-on, des aides-mémoires, c'est-à-dire des paroles du Christ qui avaient été notées, et puis des faits qui avaient été notés, et puis ils racontaient ce qu'ils avaient vu avec. Donc, oui, les logia. Donc logia, ça vient de logos, hein, de la parole, donc des paroles. Et alors ces logia, en quelque sorte, vont devenir des graphas, hein, et des choses écrites. Alors on aboutit ainsi aux évangiles. Donc je rappelle l'étymologie, ça veut dire bonne nouvelle en fait. Hein. Evangelion, c'est une bonne nouvelle. C'est la même racine que Angelos, hein, qui est l'ange, enfin le messager. Donc c'est un joyeux message. Et le joyeux message, c'est évidemment la résurrection. Donc ce que je disais de l'autre fois, là, du kérigme, qu'il est centré sur la mort et la résurrection. Et sachant que la résurrection étant après la mort, c'est plus agréable que dans l'autre sens. Et alors du coup, c'est joyeux. Et alors donc, ces évangiles vont être des textes, enfin c'est un genre littéraire finalement, où on raconte l'histoire en citant l'enseignement de celui qui en est le centre. Alors, il y a eu parfois des évangiles apocryphes. On connaît les évangiles apocryphes, mais là, j'étais en train de m'amuser à regarder ça. Il y a un certain Apollonios de Tyane, qui est un contemporain de Jésus, pense-t-on, enfin, s'il est réel, à qui on a attribué des prodiges, un enseignement, etc. Et quand au IIIe siècle, Aurélien s'inquiétait de voir que malgré les persécutions, les chrétiens continuaient de se développer, il s'est dit, il faut leur faire une sorte de contre-christianisme. Alors on va prendre un personnage bien de chez nous, mais enfin quand même un peu syrien, et puis alors on enjolive sa vie, on lui donne un enseignement, etc., etc. Et puis on raconte qu'il a fait des tas de voyages, qu'il est parti aux Indes, enfin, et puis on tâche de lancer cette religion, alors en disant qu'il fonde aussi une religion. Donc on tâche de lancer une religion comme ça, trois siècles après, à partir de rien. Et en fait, si à partir d'un texte, d'une sorte d'évangile, mais un évangile sans communauté qui le porte, ça fait un flop. Tout à l'heure, on parlait de flop, mais là, c'est flop. Parce que, ils ont essayé de pousser le truc, mais les gens, en fait, finalement, ce qui a converti les premiers païens ou les premiers juifs, c'était la conversion des premiers chrétiens. C'est-à-dire que sous l'influence de la vie de Jésus, la première génération chrétienne se convertissait à la charité. Tandis que là, on leur présentait une histoire, mais une histoire qui n'a pas provoqué vraiment des conversions, à commencer par celui qui l'a écrite. Il l'a écrite sur ordre de l'empereur. Il s'est bien gardé d'être... Et puis... donc on n'a pas pu dire voyez comme ils s'aiment, quoi, et du coup ça n'a jamais pris. Alors en tout cas, le genre littéraire existe, hein. C'est un récit centré sur un personnage qui donne son enseignement et puis aussi qui fait des choses. Alors donc ces évangiles sont centrés sur la personne de Jésus, sur ses paroles, sur ses faits, et sur ses gestes. Et comme le dit le Concile, dans Dei Verbum 18, donc toujours une constitution sur la révélation, ce que les apôtres ont prêché sur l'ordre du Christ, plus tard, eux-mêmes et des hommes apostoliques, nous l'ont, sous l'inspiration de l'Esprit divin, transmis dans des écrits qui sont le fondement de notre foi, c'est-à-dire l'évangile quadriforme, selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, des apôtres et des hommes apostoliques qui ont fait. Alors, vous voyez, le texte du Concile ne dit pas des évangiles, il dit l'évangile quadriforme. Donc, un évangile qui se présente sous des formes variées selon les auteurs. Alors, certains sont des apôtres, on pense que Matthieu, c'est bien l'apôtre. Marc, c'est le secrétaire, entre guillemets, de Saint-Pierre à Rome. Luc, le cher médecin, c'est un compagnon de Saint-Paul. Et Jean, oh, c'est au moins l'évangéliste, sinon l'apôtre, hein. Alors, cette mise par écrit a nécessité une enquête minutieuse. Comme s'en explique Saint Luc justement dans le prologue de son évangile. Et je vous cite ce prologue. On a à peu près la même chose d'ailleurs dans les Actes. Il dit, puisque beaucoup, alors, beaucoup, il dit, hein, puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et serviteurs de la parole, j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé exactement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi l'exposé suivant, excellent Théophile, pour que tu te rendes bien compte de la sûreté des enseignements que tu as reçus. Donc, Luc dit qu'il fait une enquête minutieuse, il interroge les témoins, et il remonte au commencement. D'ailleurs, on a deux chapitres d'Évangile de l'enfance de Luc. Et pour que tu te rendes bien compte de la sûreté des enseignements que tu as reçus. Donc, ce Théophile, ça doit être un catéchumène qui avait été baptisé et à qui on va donner ce qui devait servir, ce que les autres, les beaucoup, avaient dû déjà faire, c'est-à-dire des petits récits pour préparer les catéchumènes au baptême et pour leur faire connaître Jésus. Donc, comme le montre ce texte, la méditation de la vie du Christ fait suite à une première catéchèse. Certainement une catéchèse charismatique, un peu comme ce qu'on trouve au début des Actes des apôtres, ou quand Pierre, Étienne, Paul commencent à s'adresser aux Juifs. Et aux païens, surtout aux juifs, pour leur dire, voilà, celui que vous avez fait mourir, Dieu l'a ressuscité. D'accord. Vous savez, à un moment, il y en a qui disent, frères, que devons-nous faire? Parce qu'ils avaient comme le cœur transpercé en entendant ces paroles. Frères, que devons-nous faire? Et à ce moment-là, Pierre répond, faites-vous baptiser. Mais après le premier mouvement, quand même, ils veulent en savoir davantage sur ce Jésus. Parce que se faire baptiser, bon, c'est bien, on reste quand même dans le climat un peu juif, on va prier au temple et tout, mais enfin, on ne tarde pas quand même à s'attirer l'hostilité des autres, donc à finalement prendre ses responsabilités et des risques. Donc, finalement, ils veulent quand même être sûrs de ne pas être. Disons, ne pas être le jouet d'un mouvement, d'une émotion. Alors, les faits et les enseignements de Jésus qui sont rapportés par Saint Luc sont sélectionnés en fonction de leur origine apostolique. C'est le critère d'authenticité choisi par les hagiographes chrétiens, donc par ceux qui vont écrire les choses sacrées. Il faut que la source soit une source apostolique, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait partie du groupe des 12 ou du groupe des disciples, des gens qui accompagnaient Jésus et qui l'ont vu. L'effet est. Alors donc il faut avoir été disciple. Le disciple, mathétaï, les disciples, ce sont ceux qui ont reçu l'enseignement de Jésus et qui ont été les témoins oculaires de son enseignement. Et parmi ceux-ci, hein, ceux qui furent dès le début témoins oculaires et serviteurs de la parole, ça veut dire pas simplement des témoins passifs, hein, des gens voilà, qui ont vu, qui ont regardé, qui ont entendu, puis qui ne se sont pas prononcés, mais des gens qui ont ensuite mis leurs pas dans ceux du Christ, hein, qui l'ont suivi. Vous savez, à un moment, Jésus, quand il voit que son enseignement n'est pas reçu là, sur le pain de vie, chapitre 6 de Saint Jean, il se tourne vers les Pierre et les apôtres, il leur dit, et vous, est-ce que vous voulez vous retirer, c'est-à-dire marcher à ma suite? Et la réponse, vous connaissez la réponse de Pierre, c'est de dire,
Où irons-nous, Seigneur?
Qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc voilà, témoin oculaire et en même temps serviteur de la parole. Excusez-moi, pour que la tradition transmise soit acceptée et ensuite diffusée par écrit. Alors, Saint-Luc résume le propos de son évangile dans le prologue de son deuxième livre, son second livre, qui sont les Actes des Apôtres, qui décrivent les balbutiements, les commencements, de l'Église. Alors, donc dans le prologue des Actes, il dit « J'ai consacré mon premier livre au Théophile à tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis sous l'action de l'Esprit-Saint, il fut enlevé au ciel. » Donc, l'Évangile, c'est du commencement jusqu'à l'Ascension. Et ensuite, il y a un second livre. Et d'ailleurs, on voit bien la charnière dans Saint-Luc. Ça se termine avec l'ascension d'un côté et ça commence avec l'ascension de l'autre. Et alors, il s'adresse à Théophile. Mais Théophile, c'est comme Philothée. Hein, ça veut dire qui aime Dieu. Donc, ça peut être un personnage réel. Mais ça peut être aussi, ça peut désigner simplement des disciples, en fait. Hein. Alors donc, ce sont ces écrits retraçant la mission du Christ et de ses premiers disciples qui vont devenir ainsi les vecteurs de la tradition chrétienne lorsque les témoins se seront éteints. Et ils s'éteindront au plus tard, je pense, début du deuxième siècle. Hein. Voilà. Lorsqu'il écrit aux Corinthiens, donc quand il écrit aux Corinthiens, c'est en 50 à peu près. Enfin, Thessaloniciens, c'est la première lettre. Je pense que Corinthiens, c'est dans les années entre 50 et 60. Saint Paul rappelle que le Christ ressuscité est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent et quelques-uns se sont déjà endormis. Alors, il y en a, évidemment, à la fin du 1er siècle, il y en aura quand même de plus en plus qui se seront endormis. Ça, c'est 1 Corinthiens 15, 6. Donc, il devient nécessaire de sauvegarder leur témoignage en le fixant par écrit. Et les évangiles ne sont donc probablement pas les premiers écrits chrétiens, même si les études récentes tendent à prouver qu'ils ne sauraient avoir été tous rédigés après les années 70. Donc, à une période, comme je vous disais la dernière fois, on avait tendance à dire que c'est après 70 du fait qu'on parle de la destruction du temple. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'être grand clerc pour comprendre que si, avec l'agitation qui régnait en Judée à cette époque, qu'à un moment ou un autre, ça allait mal finir, comme il y avait eu déjà des révoltes auparavant. Et après tout, Jésus étant le Fils de Dieu, il avait quand même une certaine acuité dans le jugement, même politique. Et donc, il pouvait très bien prédire la destruction du temple. Alors, il est probable que l'évangile de Saint Jean est postérieur, mais les autres sont probablement antérieurs. Mais on pense quand même que le premier écrit canonique dans le Nouveau Testament, eh bien, ce sont les lettres de saint Paul aux Thessaloniciens. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait eu des proto-évangiles, c'est-à-dire déjà des recueils de paroles de Jésus, de faits de Jésus. Enfin, vous voyez un petit peu ce qui sera plus tard à la base des quatre évangiles canoniques, qui étaient déjà en circulation, justement parce que on avait besoin d'éléments déjà précis pour accompagner la conversion des premiers chrétiens. Il n'y avait pas des apôtres partout, ni des disciples partout, témoins oculaires. Donc à un moment, quand on créait des communautés ici et là, il fallait bien leur laisser quelque chose pour qu'ils puissent continuer leur mission, alors que l'apôtre ou le disciple ou le témoin oculaire continuait son chemin ailleurs. Donc il y avait déjà des... Et comme le dit Luc, Luc il écrit dans les années 50-60, eh bien il dit « beaucoup ont entrepris ». Donc ça veut dire qu'il devait y avoir des tas de proto-évangiles qui couraient en Judée, Samarie, Galilée, etc., voire en Égypte ou en Grèce et à Rome. Mais finalement, on en retiendra que quatre qui ont été suffisamment charpentés, en quelque sorte, pour...
On n'a pas de traces des protos.
Ben non. Non, non, une fois, je crois qu'à Qumran, on a découvert un bout de Saint-Marc en plus, donc d'un évangile qu'on avait déjà. Là, pour le coup, un fragment qui est un vrai fragment. Hein, souvent, je dis, les fragments, ce sont des citations dans un autre livre. Par exemple, des fragments entre guillemets d'évangile, on en trouve par exemple dans des premiers écrits chrétiens, comme la Didaquée ou des choses comme ça, où il y a parfois une phrase de Jésus dedans qu'on trouve pas dans les évangiles et qu'on trouve dans des écrits qui parfois ont été découverts à la fin du 19e siècle aussi, hein, c'est pour dire. Alors, grand C, la constitution de la Bible chrétienne. Alors, un des éléments qui va, comme pour la Bible juive finalement, ce qui va être une des raisons de la constitution de la Bible chrétienne, c'est l'usage liturgique. En fait, c'est la liturgie. Le contenu de ces premiers écrits chrétiens, qui sont normatifs pour la foi, est divulgué lorsque les nouveaux fidèles s'assemblent pour faire mémoire du Seigneur, dans un cadre liturgique qui emprunte beaucoup, dans sa première partie, à la synagogue, à la liturgie synagogale. La rareté et le coût des livres est tel que la lecture est toujours publique, finalement. Hein, on n'a pas chacun une Bible chez soi. Il y a une Bible, entre guillemets, une collection d'écrits unique dans l'Église, dans la maison où se réunissent les chrétiens. Et cette lecture a donc lieu au cours de ce culte dont la seconde partie est eucharistique. Parmi d'autres témoignages, on peut citer celui que saint Justin écrit dans la première moitié du IIe siècle. Hein, vous vous souvenez, c'est un texte qu'on avait vu dans son apologie, dans sa première apologie, au chapitre 67, voilà ce qu'il écrit. « Au jour que l'on nomme dimanche, dies Domenica, au jour du Seigneur, tous ceux qui habitent dans les villes ou à la campagne se rassemblent. On lit alors les mémoires des apôtres ou les écrits des prophètes. » Donc les mémoires des apôtres ou les écrits des prophètes. « Autant qu'il convient. » C'est-à-dire... Vous vous souvenez qu'une fois, saint Paul, quand il prêche un peu longtemps et qu'il y a un adolescent qui s'est endormi sur la fenêtre au premier étage, enfin sur la terrasse, j'imagine, de la maison. Paf, il est tombé. Mais comme on était encore proche des temps apostoliques, il l'a ressuscité. Alors aujourd'hui, je pense que si on prêchait trop longtemps et qu'on faisait tomber les gens...
Mais il y en a qui faisaient ça. C'était le cardinal Gouillon quand il était... vicaire général
à Bordeaux,
avant d'être évêque de Bayonne.
Oui, oui.
Sitôt, quand il assistait à une cérémonie et que l'homélie était trop longue, il se tirait.
Ah bon,
ça ne durait plus. Il était spécialiste.
Ça.
Il acceptait des homélies de 12-13 minutes.
Ah oui, c'est pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Hein.
Au-delà d'un quart d'heure, il
partait. C'est pas mal. Alors, je reprends la lecture. On lit alors les mémoires des apôtres, les écrits des prophètes, autant qu'il convient. Quand le lecteur a fini, le président adresse un discours dans lequel il exhorte et prescrit d'imiter tout ce qui est bien. C'est exactement comme dans la synagogue. Hein. Ensuite, tous se lèvent et font monter leur prière. C'est un peu la prière universelle. Puis... Oui, en fait, c'est un peu la préface. Et puis, en fait, le canon, globalement, c'est... Les prières universelles, c'est un peu bizarre, parce que les prières universelles, en fait, la plupart des intentions étaient déjà dans le canon. Par exemple, le canon égyptien, il fait des pages et des pages et des pages où on prie vraiment pour toutes les intentions possibles et inimaginables. Et donc, il n'y a pas besoin de prière universelle, puisqu'elle est déjà dans la prière eucharistique. Et en fait, la prière universelle, c'est les restes de prières qui étaient faites dans les églises stationales avant la procession qui allait à l'église principale à Rome. Donc, c'est un peu différent. Tous se lèvent et font monter leur prière. Le Dominus obiscum, le sursum corda, etc., ce sont parmi des éléments de la liturgie qui datent du IIe siècle, hein. Enfin, dont on a les traces au IIe siècle, dont on ne sait pas si ça ne date pas du premier. Hein. Puis, lorsque nous avons fini de prier, ainsi que je l'ai déjà dit, parce qu'il l'a dit dans un autre chapitre, on apporte le pain avec le vin et l'eau. Celui qui préside fait monter au ciel des prières et des actions de grâce, autant qu'il en est capable, et le peuple acclame en disant « Amen ». Puis on distribue, on partage à chacun les dons sur lesquels a été prononcée l'action de grâce, l'ecologie.
Il
ne
dit pas encore les paroles du Christ, là, à ce moment-là.
Bah, consécration. Oui, la consécration, en fait, on dit l'action de grâce. Le terme, en fait, c'est ecologie. Donc, une parole de bénédiction, en fait. Et en fait, c'est ça, la consécration. On n'a pas encore la terminologie qu'on a aujourd'hui. Donc, on a une terminologie... inspiré du judaïsme. Et vous voyez, quand même, ce qui est intéressant, c'est que...
Dans la consécration, il rendit grâce.
Oui, il rendit grâce.
Oui, mais il y a les paroles du Christ, c'est ça
j'ai Alors, question. On ne sait oui, pas. Certains oui, pensent que les paroles du Christ ont été très vite citées pour appuyer... parce qu'en fait, la parole consécratoire du prêtre suffit. Le simple fait de raconter, de... suffisait. La preuve, c'est qu'on a retrouvé des liturgies en Mésopotamie, vers l'Afghanistan, qui étaient des liturgies où il n'y avait pas la citation des paroles du Christ, mais où on racontait ce qu'il avait dit, en style indirect, si vous voulez. Donc tout était dit en style indirect. Et puis, comme on s'est rendu compte quand même que c'était la partie la plus importante, du coup, on a inséré... les paroles mêmes du Christ qu'on a emprunté d'ailleurs à saint Paul il y a comme une greffe en style direct des paroles de Jésus dans un discours en style indirect où on racontait ce qu'il avait fait et puis ce qui est intéressant c'est qu'on voit que le président de cette affaire donc c'est le même qui est celui qui organise les lectures et qui les commente et qui ensuite prononce la bénédiction sur le pain et le vin. Donc on voit bien que c'est déjà le prêtre en fait qui fait ça. Et on retrouve donc dans ce texte la structure bipartite de l'Eucharistie. Et on remarque que les mémoires des apôtres qu'on appelle évangiles avait dit saint Justin quelques lignes plus haut, sont donc mis sur le même plan que les écrits des prophètes, c'est-à-dire sur ce qu'un juif considère comme étant la parole de Dieu. Donc, ça veut, parce que nous, on se dit aujourd'hui, on se dit l'Ancien Testament, bon, bah, très bien, on en lit un bout à la messe, et encore pas tout le temps. On peut s'en passer. Mais les premiers chrétiens, pour eux, la Bible, c'est la Bible juive. Donc, la parole de Dieu, c'est la Bible juive. Donc, le fait de mettre leurs commentaires, etc., sur le même plan que ce qui a toujours été considéré comme la parole de Dieu, ça veut dire qu'ils avaient compris que Jésus n'était pas simplement un prophète de plus, ou un, enfin, que précisément il était, il apportait quelque chose, il n'était pas un commentateur. Mm-hmm. Parce que pour nous, aujourd'hui, les évangiles, c'est au-dessus de l'Ancien Testament. Mais pour la première communauté chrétienne, c'était un peu le contraire, c'est-à-dire que l'Ancien Testament, c'était la Bible, et oser mettre un texte au niveau de la parole de Dieu, ça voulait dire qu'on le considérait comme aussi valable que la parole, donc qu'il était même parole de Dieu, vous voyez. Alors voilà. Alors c'est comme ça qu'on va s'orienter vers une dualité, ce que j'ai appelé l'un et l'autre testament, une dualité dans la parole de Dieu. L'enseignement de Jésus ne laissait donc aucun doute, il y a bien une dualité dans la révélation. Le Christ est venu accomplir une diathèque, en grec, hein, une disposition, nous on dit un testament, mais c'est une disposition testamentaire, si on veut, divine, qui du coup devient caduque, ou mieux, survit à l'intérieur d'une nouvelle disposition perçue comme définitive. Et c'est saint Paul qui en tire le premier des conséquences. Il se comprend comme, à un moment, dit-il, comme ministre d'une nouvelle alliance. Alors on dit alliance, mais c'est aussi diathéque en fait. Donc d'une nouvelle disposition, d'un nouveau testament. Donc en grec, c'est kainé diathéke. Et les deux termes grecs sont intéressants parce que le substantif peut se traduire par disposition, et par là alliance ou testament, et l'adjectif désigne une nouveauté qui n'est pas seulement chronologique, mais qualitative. Sinon, on dirait néa, ou néos, hein, pour prendre en compte quelque chose qui est plus récent. Mais kainos ou kainé, eh bien, kainon, c'est quelque chose qui a une nouveauté dans le sens d'une plus grande qualité. Voyez. Et c'est ce que Paul précise en opposant l'esprit et la vie qui caractérise le Nouveau Testament à la lettre et la mort qui en comparaison qualifie l'Ancien Testament qu'il appelle Palaia Diatheke, la vieille disposition, la vieille alliance, donc ce qui est vieilli, ce qui est périmé, et donc du coup ce qui devient caduque. Donc ça, cette prise de conscience capitale, hein, de cette dualité dans la pédagogie divine, dans l'alliance, c'est 2 Corinthiens 3, 14. 2 Corinthiens 3, 14. Corinthiens, c'est assez récent. Enfin, c'est assez... enfin, je dirais plutôt, c'est assez ancien comme texte. C'est les années 60.